Chapitre 25. Leclerc n'était pas rentré chez lui du dimanche. Quand je débarquais au 36, il pianotait sur son ordinateur portable, cerné de gobelets vides et de chewing-gum roulés en boule. Sa cravate pendait sur un porte-manteau, dans ce bureau au plancher couleur chêne sombre, craquant comme dans un vieux grenier. « 3 Vivian Malborne dans toute la France », expliqua-t-il en brassant des amas de feuilles. « Un gamin de 12 ans dans la Creuse, un type de 55 ans dans le Midi, et un autre qui habite dans le 2e arrondissement. » Je me penchai par-dessus son bureau, un peu haletant. « Ça se précise. Et ?»« Plus tout jeune, 75 ans, ancien médecin, psychanalyste hypnotiseur. » »« C'est bien ça. L'assassin veut nous ramener en arrière, vers le passé. Son passé. » Le divisionnaire s'écrasa dans son profond fauteuil, une nouvelle gomme à mâcher emballée entre les doigts. « Cette affaire commence à me chauffer. On ne fait que subir depuis le début. Pas fichu d'établir un putain de portrait robot. Dernière nouvelle, tu sais quoi ? Aucune personne de l'Ubus n'a pu identifier notre fantôme. A priori, le Gus se pointait avec un masque africain sur la tronche. Non mais t'imagines le délire ? Un masque africain ! » Il se cache le visage. « Mais pourquoi ? Seul cet opium doit savoir à quoi il ressemble, mais pour le moment... « Envolé, le gros Black !» Il serra les poings sur les accoudoirs. Là-haut, il n'apprécie pas cette enquête un peu trop aux cartes au trésor. Ils le veulent lui et non les cadavres qu'il a semés sur son chemin. Je déroulai un geste de colère, levant un bras par-dessus ma tête. « Facile à dire. On prive déjà les gars de leur congé, on les oblige à venir le week-end, tout juste si on les laisse dormir. Je sais, je suis bien le premier concerné. » « Dimanche, 20h en plein juillet, et je suis ici, enfermé entre ces quatre murs à remuer la mort, mais... » Il devient urgent de le coincer. Ça a toujours été une urgence pour moi. Tu dois aller voir cet hypnotiseur tout de suite. Profitons de l'avance que nous avons prise sur son jeu pour le contrer. Si ce fumier se sert du vieux pour nous parler, soit. Écoutons ce qu'il a à nous dire. J'attends ici, tiens-moi au courant. Il m'interpella une dernière fois, alors que je franchissais la porte de son bureau. Shark, ça va aller ? Tu sembles un peu pâle. À trop côtoyer les Maccabées, on finit par prendre leur couleur. Vivian Malborne habitait à deux pas du Louvre, dans un grand immeuble haussmannien dont l'entrée était protégée par un gardien en uniforme rouge. Sous l'impulsion de ma carte tricolore, l'automate m'accompagna dans les longs couloirs au plafond très haut et aux tentures de velours magnifiques. Le docteur m'accueillit en fauteuil roulant, poussé par un sbire aussi souriant qu'une statue de l'île de Pâques. Le vieillard était vêtu d'un costume trois pièces blanc, au col de chemise si serré que son maigre cou débordait en plis de peau disgracieux. Il portait un nœud papillon noir, en parfaite harmonie avec sa couronne de cheveux d'un gris très foncé. C'est un commissaire de police, annonça le pousse-charrette d'un ton sans nuance. Le commissaire Charcot. Le médecin me fixait intensément, sans ciller. Ses yeux étaient tapissés d'un fin tulle transparent, mais on devinait par-delà le voile le bleu mystérieux des pierres précieuses. Que puis-je pour vous, commissaire ? Sa voix était en retard sur son âge, étonnamment fluide et posé. J'aimerais vous parler seul à seul, si vous le voulez bien. D'un lent mouvement de main, il congédia son majordome qui disparut dans l'une des pièces, dont le gigantisme n'avait d'égal que l'immense impression de vide qu'elles insufflaient. Peu de meubles, encore moins de bibelots, aucun tableau, juste la lumière fatiguée d'un jour blafard, agonisant sur le marbre du sol. Malborne se dirigea en marche arrière vers le salon, à l'autre extrémité du hall, sans même se retourner. « Installez-vous, commissaire, » fit-il en désignant d'un geste approximatif des fauteuils à oreillers de beige. Un bar, sculpté dans un mur, des dizaines de marques de grands whisky et autant de cognac. L'ancien appréciait les bonnes choses. En m'asseyant, je déposai les fusains sur une table d'ébène. Malborne ne réagit pas. « De quoi allons-nous parler, commissaire ?»« D'un homme. Un homme qui a dû être l'un de vos patients. Je vous ai apporté certains de ses dessins. » Un dernier rayon de soleil joua sur ses dents impeccables. Avez-vous vu un seul livre ici, le moindre tableau? Mes yeux ont été toute ma vie, mais aujourd'hui, ils m'ont presque abandonné. Une cataracte inopérable. J'ai le fond de l'œil mauvais, paraît-il. Le comble pour un hypnotiseur, non? Le fond de l'œil mauvais. Son rire se termina en un murmure fatigué. Ça partait mal. Je voudrais juste... Il me coupa encore. Des patients, j'en ai soigné des centaines, pour ne pas dire des milliers. Mes dernières thérapies doivent remonter à 5 ans, et ma mémoire... Ma mémoire... Elle s'efface aussi vite que ma vue. Ma vie n'est plus qu'une grande plaine sibérienne. Son regard de quartz ne me lâchait pas, figé dans l'éternel hiver de ses pupilles blanches. Que distinguait-il? Juste des formes, une aura, des masses sans nuance? Je me penchai vers lui, les mains entre les cuisses. L'individu dont je vous parle est très versé dans la religion. Il se sert de supports comme l'Apocalypse ou le Déluge pour composer les messages qu'il nous adresse. Il pense fermement que la fin des temps arrivera avec les insectes. Il les utilise comme vecteurs pour répandre sa colère. Le terme de « fléau » est récurrent. Les illustrations que nous avons retrouvées sont très sombres. Ciel d'orage, cavités, squelettes et toujours des insectes. À plusieurs reprises, on y voit une femme, jeune, attachée sur un lit. Longs cheveux blonds, peau ivoirine, des croix sombres sur le corps, peut-être des mutilations. Et un tatouage sur son pubis. Un tatouage en forme de nœud. Les lèvres usées de Malborne s'écartèrent légèrement, tandis que le reflet acier de ses iris ensauvageait ses traits. Chaque fois, une présence l'observe, continuai-je en articulant clairement. Une présence enfantine, entrevue dans un miroir. Le visage est très flou, vous le distinguez à peine. Le lit est en bois. Non, en métal, oui. En métal, je crois. Le plafond très bas. Il se dégage comme une puissante impression d'écrasement, d'enfermement. Je me trompe, commissaire? Malborne avait parlé très lentement, avec hésitation, comme si les mots remontaient d'un puits fort profond. C'est tout à fait exact, répliquai-je, sans cacher le trouble qui me gagnait. Les sillons de son front se creusèrent plus encore. Ses longs doigts osseux s'arrimaient fermement aux roues de son fauteuil. Qu'a-t-il fait pour que la police se déplace chez moi? Il a exécuté une famille complète. Le mari, l'épouse, la fille. Et votre nom était caché sur l'un des textes à notre attention. Une exhalaison brûlante siffla dans sa gorge, alors qu'il plaquait ses mains sur ses pommettes d'anorexique. Je sortis un dictaphone. Vous permettez que j'enregistre notre conversation? Et je vous en prie, ne me parlez pas de secrets professionnels. Votre ex-patient a commis des actes impensables. Alors que les ombres croissaient autour, Malborne finit par acquiescer. Je déclenchai l'appareil sur ses premières paroles. Tout ceci paraît si loin. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? À vous de me le dire. Il resta un instant sans réaction, la tête un peu inclinée. Vincent est venu me voir alors que je n'exerçais plus depuis 4 bonnes années. J'avais l'impression de me retrouver au bord d'un gouffre, avec l'incroyable envie de sauter pour me rapprocher plus vite de l'issue fatidique. Toutes les clés se cachaient dans ce cerveau émietté. À quand cela remonte-t-il? Voilà 5 ans, fin 2000. Son cas m'intéressait, un cas incroyable, vraiment incroyable. Je me rappelle un être fracturé, très angoissé, incapable de se souvenir des 15 premières années de son existence. Oui, c'est ça, ces 15 premières années. La partie n'était pas gagnée. Le vieux bafouillait, écumait, cherchait ses mots. Un homme victime d'un cauchemar récurrent depuis son adolescence. Il y voyait cette femme dont vous avez parlé, sanglée sur un lit en fer, un placard avec un trou au fond, le tatouage d'un nœud sur son sexe, ses croix sur son corps. Une gravité lourde plombait à présent sa voix. Derrière lui, au travers d'une fenêtre ovale, des troncs hargneux s'étiraient en une armée noire. Un jardin privé, peut-être. Et il y avait les hurlements. C'est ça qu'il supportait le moins, Vincent. Les hurlements incessants dans sa tête qui, nuit après nuit, l'anéantissaient. Il tendit un ongle manucuré vers un porte-bouteille. « Pourriez-vous nous servir un peu de vin, Monsieur Charcot? Le Bordeaux 85, s'il vous plaît. » Je me sentais frigorifié. Les voix dans sa tête, les cauchemars, les hurlements. Suzanne, Héloïse. Un être fracturé, disait-il. Brisé intérieur. Commissaire? Fit-il en inclinant sa maigre tête d'oiseau. Je vous sens soudain distant. Excusez-moi, je pensais juste à quelque chose. Je lui tendis son verre, bu une gorgée de ce breuvage qui devait coûter des milles, et murmurai d'un timbre que j'aurais voulu moins vacillant. « Continuez, docteur, je vous écoute. » Il huma son grand cru, puis son humecta d'un geste fin les lèvres avant de poursuivre. « Avez-vous déjà vu le mental influer sur le physique, le subconscient lutter au point de blesser et de torturer le corps ?» Vincent appartenait à ces stigmatisés, ces êtres frappés par une puissance psychique phénoménale. Qu'entendez-vous par là? Chaque fois que je poussais l'analyse trop loin, que je déverrouillais des portes, Vincent se mettait à saigner du nez, très intensément. C'est la seule image physique que je garde de lui, ces rivières rouges sur le flou de son visage. Le flou de son visage? Vous voulez dire que vous ne pouvez pas le décrire? Le vieillard porta ses mains noueuses à ses paupières plissées. « Hélas, non. Ma vue était déjà atteinte. Je conserve juste de lui une impression générale, une vision confuse, si lointaine. »« C'est pas vrai. Et quelle impression ?»« Je ne sais plus. La même impression que j'ai de vous ce soir, sans vous distinguer réellement. Grand, cheveux foncés, châtain, peut-être brun. Et une voix très grave. » Il se prit le front dans les mains. « Rien d'autre. Rien d'autre, désolé. » Je contractai les mâchoires. L'assassin s'était un jour assis ici, peut-être dans ce même fauteuil. Avait-il goûté à ce vin lui aussi? Et son nom? Donnez-moi son nom. Il m'a toujours dit qu'il s'appelait Vincent, même pendant nos séances. Vous savez, l'hypnose n'est qu'un état de semi-conscience où le patient ouvre certaines barrières et en ferme d'autres. Prier un hypnotisé de se déshabiller alors qu'il n'en a pas envie, il ne le fera jamais. Vincent s'était fixé certaines règles avant de venir ici. Peut-être trop. Quelque chose dans sa tête cherchait à le protéger. Quelque chose de suffisamment fort pour provoquer les saignements. Je me levai et m'accroupis devant son fauteuil. Ses yeux rayonnaient d'un froid intense, alors qu'à l'extérieur, le soleil déclinait entre les troncs, jetant une poche d'ombre grandissant autour de nous. Le salon se transmua en une cave sombre, saturé de mystère. Racontez-moi son histoire, docteur. Malborne fronça ses sourcils neigeux. Ne me demandez pas des miracles, vous n'aurez que ce que ma mémoire voudra bien me restituer, c'est-à-dire des bribes. Après 70 ans, le cerveau a perdu plus de 10% de sa masse. Les neurones, quant à eux, les enregistrements. Vous avez bien des enregistrements audio des séances? Il secoua la tête. Vincent est revenu les récupérer l'année dernière. « C'est pas possible !» Presque triste, il plongea ses lèvres fébriles dans son verre, puis finit par dire « Notre travail s'est focalisé autour de sa 15e année. Je vais vous raconter les épisodes à reculons, si vous le voulez bien. C'est de cette façon que nous avions procédé quand il se tenait là, à quelques centimètres. Je vous écoute. » Face à moi, deux fentes horizontales, d'un blanc de vipère. Vincent a 16 ans. Il habite avec son oncle et sa tante au bord de la mer. Une grande maison, très lumineuse, avec énormément de fenêtres. D'en haut, on y voit les bateaux d'un côté, les maisons du village de l'autre. Quel village? C'était sans importance. Je n'en sais rien et ne m'interrompez plus, s'il vous plaît. Vincent aime les journées ensoleillées, car depuis quelque temps, les nuits lui font peur. Un méchant cauchemar s'est installé dans sa tête. Une vision qui l'arrache de son sommeil, le laissant en pleurs. Nous remontons alors jusqu'à cette fameuse nuit où le mauvais rêve est apparu, la nuit d'un très violent orage. Il aperçoit de grands flashs, entend les murs trembler. Le vent gémit dans les gouttières et les volets claquent. Au loin, la mer est noire, furieuse, les vagues ébranlent les bateaux. Vincent hurle, recroquevillé dans un coin de sa chambre. Il tremble, urine sur le sol. Il est seul dans la maison. Son oncle et sa tante sont sortis au restaurant. Il croit qu'il va mourir. Malborne claqua brusquement des doigts. Pour la énième fois, Vincent saigne du nez. Nous interrompons la séance. Notre avancée dans son psychique est pénible et douloureuse, mais nous sentons que nous sommes sur la bonne voie. Vincent accepte de poursuivre la thérapie. Il témoigne de beaucoup de volonté. Il reprit un peu son souffle, lapa de petites gorgées de vin avant de poursuivre. Donc, l'orage a créé le cauchemar. Pourquoi? Reculons. Avant, bien avant cet orage. Vincent ne cauchemarde pas encore, il a 15 ans. Il vient d'arriver dans cette nouvelle demeure qui donne sur la mer, mais pour lui, à vrai dire, tout est nouveau. La plage, l'école, les camarades. Une chambre l'attend, avec des jouets, des puzzles, des disques. Il reçoit beaucoup d'amour. Des figures se succèdent autour de lui. Il sait qu'ici, il sera bien. Il est heureux. Il a l'impression de renaître, ou même de naître. L'analyse révèle qu'il est très intelligent, comprend vite, s'adapte très facilement. C'est un gentil garçon, coopératif et entreprenant. Ceux qui le côtoient sont fiers de lui. Les paroles ruisselaient de ses lèvres, pareilles au remous d'une rivière tranquille. Il s'en dégageait une vibration douce, si ensorcelante que l'on avait envie de s'en laisser bercer. Allons plus en arrière. Approchons-nous du point de rupture. Un mois plus tôt. 1980, je crois. Oui, c'est ça. 1980. L'année de la mort de Sartre. Il y a 25 ans. Important pour vous la date, n'est-ce pas, commissaire? Effectivement. Vincent aurait donc aujourd'hui 40 ans. Il acquiesça. Donc, 1980. Une très longue route. La nuit. La pluie qui fouette les vitres de la voiture. Vincent est allongé sur la banquette arrière. Il pleure, il est terrorisé. Il n'a aucun souvenir de l'homme et la femme assis à l'avant. Elle se retourne de temps à autre, sourit, lui caresse les cheveux. Avec le conducteur, elle chuchote sans cesse. Il n'entend pas, la pluie est trop forte. Malborne tressauta. Durant cette séance, se dresse en face de moi un être qui sanglote, s'agite, se cabre brusquement. Je sais que le travail va aboutir, mais je devine aussi que l'inconscient lutte bec et ongles. Le défi se révèle très dangereux. Les saignements croissent en intensité et violence, mais nous poursuivons nos rencontres. Il fallait aller au bout, c'était primordial pour sa santé mentale. L'hypnotiseur ne racontait plus, il vivait ses paroles. Autour, l'espace s'effaçait, saturé d'ombre et de spectres naissants. Ne restait du vieil homme que cette transparence oculaire, ces cristallins blessés, hermétiques aux grandes lumières du crépuscule. Remontons de quelques heures à l'origine, avant cette longue route, son réveil à l'hôpital. Vincent se souvient. Une chambre, deux personnes autour de son lit. On lui dit qu'il s'est cogné la tête très violemment et qu'il est resté dans un coma profond, plusieurs semaines. Il n'a le souvenir de rien. Ses visages sont ceux de sa tante et de son oncle, mais il ne les reconnaît pas. Sa mémoire implicite n'est pas affectée, comme souvent dans les amnésies. Il sait le nom des arbres, distingue les couleurs, peut compter jusque des mille et des mille. Un test de QI révélera même qu'il a une intelligence au-dessus de la moyenne. Mais sa mémoire explicite, celle des souvenirs de ce qu'il fut, est anéantie. Il ignore qui il est. Il a oublié tout ce qui précédait ce réveil. Il réclame une mère, un père. On lui répond que le père est parti avant sa naissance et que la mère est décédée d'un cancer des poumons quand il était tout jeune. Il ne peut qu'admettre. Il passe encore plusieurs semaines à l'hôpital. On lui explique que sa tante et son oncle sont sa seule famille et qu'ils se sont toujours occupés de lui. Il va repartir avec eux et rebâtir son identité, car sa mémoire risque de ne jamais revenir. Malborne s'agita brusquement dans son fauteuil. Devant moi, Vincent s'évanouit. Une hémorragie trop forte. Je me précipite, tombe de ma chaise. Je pose mes mains sur sa poitrine. Le cœur a cessé de battre. Faites-le revenir, je vous en prie. Je lui pressai fort la main. Docteur. Il happa une grande bolée d'air, comme après une apnée douloureuse, desserra son nœud papillon d'une main frémissante et manqua d'arracher le dernier bouton de sa chemise. J'ai failli appeler les pompiers, mais j'ai aperçu une palpitation sur sa gorge. Sa jugulaire battait. Elle battait alors que son cœur était arrêté. J'ai cru à un nouveau phénomène étrange, une manifestation de son inconscient. Puis j'ai pensé à autre chose. À ces personnes qui naissent avec les organes inversés. Alors j'ai posé la main à droite. Le cœur battait. Impossible. Comme la fillette. Tout s'embrouillait dans ma tête. Le réel, l'imaginaire, les souvenirs. Malborne continuait à parler, la sueur aux lèvres. Alors j'ai tout interrompu. C'était trop risqué. Nous y étions presque. Nous avons failli toucher au but, franchir le mur du coma. Tout s'est arrêté définitivement. Je ne l'ai plus jamais revu, sauf quand il est revenu chercher ses enregistrements l'année dernière. Alors j'ai compris. J'ai compris que la barrière avait été enfoncée, qu'il savait à présent et qu'il cachait un terrible secret. Je l'ai senti. Il était froid comme la mort. Comme la mort. On aurait vraiment dit quelqu'un de différent. Je ne le reconnaissais pas. Mes tempes pulsaient. La petite, au cœur à droite. Deux êtres de constitution anormale, surgis au même moment dans ma vie. Mais qu'y avait-il à comprendre? C'était une histoire de dingue. Je secouais la tête, il fallait clore l'entretien. « Je compatis à votre douleur, docteur, » soufflai-je. « Mais ce n'est pas ma douleur, c'est la sienne. » Vincent n'a pas subi un choc physique, comme l'ont prétendu les médecins, mais psychologique. D'une violence capable de le plonger dans le coma et de lui fracturer la mémoire. Tous ces gens lui ont menti. Il faut me donner des détails qui pourraient m'aider davantage. Ces toubibs qui l'ont soigné à l'hôpital avaient bien un nom. Ces tuteurs aussi. Tous ces gens, ces lieux, s'il vous plaît. Le vieillard rabattit sa main devant lui, comme pour mettre fin à ces évocations trop épouvantes. Des noms. Bien évidemment qu'il m'en a cité. Il m'a même décrit un à un les jouets qu'il avait dans sa chambre, le nombre de pièces de ses puzzles, mais comment voulez-vous que je m'en souvienne? C'était tellement secondaire. Vous ne saisissez pas bien, commissaire, je crois. Il enveloppa son verre ballon de ses paumes, comme la flamme d'une bougie qu'on chercherait à protéger. Vous a-t-il déjà parlé d'une fillette? 10 ou 11 ans, cheveux noirs, très jolie? Jamais. Et si je vous dis Tisserand? Il secoua la tête, l'air un peu agacé. Je lui énumérai des prénoms inscrits sur le tableau du déluge. Non, non, non. Le déclic du dictaphone conclut mes salves de questions. Je laissai une carte de visite sur la table. Vous avez raison. Il a réussi à défoncer lui-même cette barrière. Il connaît l'origine de son cauchemar et la cause de son oubli. Voilà pourquoi aujourd'hui il tue des gens. Et il en tuera encore tant que nous ne l'aurons pas arrêté. J'espère que des flashs vont vous revenir. Jour ou nuit, appelez-moi, même s'ils vous paraissent sans importance. Malborne m'agrippa soudain le poignet et ne le lâcha plus. Ces personnes, elles ont dû le blesser alors qu'il était enfant. Tout vient là, du traumatisme. Il ne faut pas fouiller son présent, mais son passé. Ces prénoms, à quoi correspondent-ils exactement? Il s'agit d'une liste. Une liste de 52 victimes qu'il s'apprêtait à nous livrer. Oh mon Dieu. 52. Les démons de son enfance. Ses doigts, sans plus de force, finirent par se décrocher de ma veste. Alors que je m'éloignais, il m'interpella une dernière fois. Attendez, juste un détail, un petit détail. Il se remémorait des montagnes, les montagnes couvertes de neige qu'il apercevait depuis la fenêtre de sa chambre d'hôpital. Un nom explosa dans ma tête. Grenoble. Là où les tisserands avaient vécu. Il y a plus de 25 ans.